Donc le sujet du jour sur lequel on va se concentrer, c'est un sujet que moi je vois sur ma chaîne, on me pose mais très souvent la question, j'ai encore reçu ça aujourd'hui en vocal, une personne qui me dit voilà, je viens de me lancer en beatmaking, j'ai fait mon BeatStars, je sais pas du tout combien il faut que je mette mes prods en vente à combien. Et ça le sujet, c'est comment on fixe le prix de ces prods. Donc je sais pas, on pourra tous en parler sur, donc sans parler de la partie collectif et tout ça, mais comment vous, indépendamment du collectif, vous fixez vos prix? Est-ce que vous avez fait du random? Est-ce que vous avez copié sur ce que quelqu'un avait fait? Est-ce que vous avez dit ça semble bon, je vais partir sur ça? Moi je dirais en dernier, comme ça je bouclerai le truc, mais je vais d'abord commencer par vous. Toi par exemple, Alpash, quand tu as mis tes prods en place, comment tu t'es défini en termes de prix?
C'est vrai que c'est une question pas simple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu checké différents beatmakers, enfin plusieurs beatmakers, pour essayer d'avoir une espèce de moyenne globale, en fait, d'avoir un tarif général, quoi. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai essayé de m'aligner, du coup, un peu, tu vois, pas mettre des prix trop hauts. Et pas non plus mettre des prix trop bas, quoi. Voilà, vraiment être dans un juste milieu, dans un équilibre. Après, c'est vrai que ouais, c'est pas évident parce qu'on a toujours, enfin souvent, tendance en tout cas soit à surévaluer ses prods. On se dit qu'on fait les meilleurs prods de la planète et que bah ça mérite un prix, hein, ou alors on dévalue complètement ce qu'on fait, ce qui n'est pas bon aussi. Donc voilà, moi comment j'ai fait, quoi. Je suis parti en voir plusieurs et puis j'ai essayé de me faire une moyenne et de m'aligner un peu sur ce qui se faisait globalement, quoi.
Ouais, parce que c'est ça quelque chose, c'est au début t'es tenté de vouloir te mettre un petit peu en dessous stratégiquement potentiellement du marché, te dire en mettant un peu plus bas, vu que je commence, j'aurai peut-être des prix qui sont un petit peu plus aguicheurs pour attirer du client sur la marketplace BeatStars par exemple. Mais en vrai, quand tu fais ça, certains peuvent voir que c'est un manque de qualité, donc du coup tu peux te remettre très vite en question quand tu débutes. Est-ce que si je mets un prix plus bas, ça veut dire que je fais un peu de la merde, donc faut peut-être pas que je mette un prix plus haut, mais si tu mets un prix plus haut alors que tu débutes, bah ça fait un peu un contresens. Donc,
exactement.
Donc c'est ça qui est un petit peu chaud. Toi Coty, sur BeatStars, comment tu t'es décidé pour tes prix?
Moi c'était hyper random au début. Alors j'ai pris mon beatmaker préféré, j'ai pris ses tarifs et j'ai tout divisé par deux au début.
C'est
donc
qui ton beatmaker préféré?
Moi il y avait Soulcœur au début, ma plus grande inspi.
Ouais.
Et du coup j'ai pris tous ses prix, j'ai divisé par deux. Et quand j'ai commencé, je me mettais assez tarot, tu vois. Et quand je voyais que ça commençait à vendre bien, j'ai augmenté les prix. Et j'arrive à une sorte de plafond, tu vois, où dès que ça commence à être un peu trop cher, ça vend moins. Et du coup, j'ai baissé un peu et j'ai réussi à trouver ma médiane, en vrai, tu vois. Et du coup, c'est à peu près les prix dans lesquels je suis maintenant qui font que ça va, j'arrive à bien vendre. Mais je pense que c'est plus... c'est hyper compliqué de juger par soi-même combien valent sa prod, en fait, tu vois. Genre, c'est un peu compliqué, mais moi, je fais comme ça. C'était un peu random au début et finalement, ça a bien marché. Mais c'est un peu compliqué en vrai, franchement, au début, et surtout quand tu commences ou quand tu sais pas trop comment ça marche, tu essaies d'évaluer un peu tes prods et tout. C'est comme a dit Alpash, c'est soit tu les sous-estimes, soit tu les surévalues, tu vois, et c'est pas facile en vrai. Mais moi j'ai trouvé ma technique, j'ai fait comme ça, et au final là j'ai des prix stables et je pense que je les toucherai plus en fait. C'est plus maintenant les exclus où ça va augmenter un peu, tu vois, en fonction de si tu vends ou pas. Mais ouais c'est ça. Même pas sur l'artiste, c'est de façon générale, tu vois. C'est si tu veux montrer que t'es professionnel, si tu veux montrer que je sais pas, t'as envie de step up et que même tes prods, tu vois qu'elles step up et tout, tu vois. Tu vas pas vendre une exclue à 100 balles alors que ça fait 5 ans que tu fais du beatmaking, que tu connais tous les trucs et tout, tu vois.
C'est clair.
Au début, tu le fais parce que t'es content, c'est tes premières ventes, ta première exclue, t'es là, wow, putain, je me suis fait de l'argent avec la musique et tout, c'est trop cool. Et quand tu commences à vraiment vendre et tout, tu te dis, il faut monter la barre un peu, tu vois. Mais en tout cas, ouais. Moi, c'est ma petite technique que j'ai faite.
Ok, toi, Caillou, comment t'avais fixé ça, toi, sur ton BeatStars à l'époque?
Déjà, j'ai trouvé super intéressant l'expérience de Coty, parce que pour le coup, le gars connaît quoi, tu vois. Moi, en ce qui me concerne, je m'étais surtout aligné sur ce qui se faisait, parce que je voulais pas casser le marché. De base, j'aurais eu tendance à baisser mes prix par rapport à ce que les homologues font, tu vois. Et ouais, je m'étais plutôt aligné sur les prix du marché, mais si c'était à refaire, je reviendrais à la baisse. Parce que chez les Quinry, par exemple, ce qui se fait souvent, c'est 25$ le MP3, 40 le Wave, et les stems à 100. Et moi, j'ai des poteaux qui sont dans le son, et j'ai vu d'expérience que du coup, des fois, les stems à 100$, ça refroidit. Alors que, par exemple, un 70 passe beaucoup mieux, psychologiquement parlant. Donc j'aurais tendance à vouloir baisser un peu pour faire plus de volume. Mais c'est pas forcément la bonne solution. Ou, voilà.
Bon après, chacun sa méthode, hein, chacun son truc.
Mm-hmm. Carrément. Moi, j'ai tendance à croire que genre les Américains, ils achètent plus que les Français. Tu vois, genre les Français, ils ont plus du mal avec
c'est
les
sûr.
Prix, je trouve.
C'est sûr, c'est une certitude absolue.
Enfin, tu vois, je sais que quand j'ai vendu mon exclu à 1000 balles, tu vois, un Français, il aurait jamais acheté 1000 balles. C'est genre, sûr. Tu disais ça à un Français, il va te dire non de suite, il va te bloquer.
C'est sûr, et même au-delà des 1000 balles, moi avec BeatStars, je vois des fois, je crois que le plus haut que j'ai vu, si je dis pas de bêtises, ça a été un peu plus de 3000. Enfin, je sais pas si on se rend compte, un peu plus de 3000 l'achat.
Ouais, c'est insane.
C'est très très haut. Et franchement, j'ai beaucoup de mal à imaginer ça en France. Ça me paraît, pour pas dire impossible.
Je pense que ouais, les Français, ils achètent plus les MP3 ou les petites prods comme ça, mais... Ouais. Encore ouais,
ça va changer, ça. C'est les mentalités qui sont encore un peu en retard par rapport au carry, je pense.
Et tu penses que ça va changer?
On a toujours une dizaine d'années de retard sur les States, tu vois. Donc là, aujourd'hui, on commence à parler des beatmakers en France, alors que ça fait 10 ans que c'est banal aux States.
Ouais, t'as dit ouais. Nick Mira et tout, ils sont à la même place que les rappeurs.
Exactement.
C'est ça.
Ouais, puis après, il faut voir en France aussi ce que ça va. Moi, c'est pour ça que j'étais assez emballé par InstruRap, parce qu'aujourd'hui, BeatStars, tout ça, toutes ces boîtes, elles sont en général américaines. Mais un InstruRap qui se met, qui va mettre en place des trucs, on sait que les artistes vont écouter sur InstruRap. Donc potentiellement, ça pourrait être, pour moi, InstruRap un rôle clé à jouer dans le changement des mentalités, justement. Donc je suis assez curieux de voir comment ça va évoluer. Après, ouais, les Ricains aujourd'hui sur... En fait, pas tous, mais une majorité des artistes qui ont, entre guillemets, vont être soit en label ou soit qui vont commencer un petit peu à se professionnaliser, vont avoir le réflexe par défaut de se dire « je m'achète ma prod sur BeatStars ». Donc ça, l'achat final, mais ça veut dire qu'ils peuvent rechercher sur YouTube, être redirigés sur BeatStars, etc. Alors qu'en France, on n'est pas encore trop à jour dans ces méthodes-là. En France, ça va plus être ceux qui vont avoir vraiment du cachet, du moyen en termes de pognon. Ils vont plus, ça va se faire voilà, via du mailing, ils vont repérer quelqu'un, ils vont aller le voir, ou c'est la maison de disque qui va rincer un beatmaker à l'intérieur. Ça va être des trucs comme ça, alors que ouais, c'est. Je sais pas quand est-ce que ça évoluera, mais je pense vraiment que le fait que la maison mère soit américaine, les Américains ont forcément pris le pli plus rapidement. C'est pour ça que j'attends beaucoup d'instruira pour vraiment élever le game à ce niveau-là, parce que je pense qu'ils ont un vrai rôle à jouer, et je pense que du coup, on aura un vrai rôle à jouer.
Ah, c'est sûr, c'est sûr.
Ouais.
À voir, comment toi t'as fait mon petit syndrome, parce que je sais que toi t'as des prix, c'est au centime un petit peu précis, je crois, de mémoire.
Alors ouais, c'est un calcul vraiment très très intense, ça m'a pris des années finalement, en fait, toute ma vie, pour trouver ces prix-là. Je suis arrivé sur le site, et il me disait, on vous propose... genre, je sais plus, c'était 29,99, 49,99 et des 99,99. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, moi j'ai pas envie d'avoir plein de 9, je préfère avoir des 8. Et du coup, j'ai changé les 9 en 8.
Voilà. C'est tellement syndrome de faire ça, je trouve. C'est syndropien total.
C'est génial,
de ouf.
C'est magnifique. Et vous, ça va?
Un petit café, syndrome, ça va?
Ouais, tranquille.
Non mais bah écoute, c'est une méthode, c'est une très très bonne méthode. Mais au niveau de la... Donc du coup t'as suivi un petit peu les recos juste en changeant le 9 et tu t'es pas dit je vais baisser un petit peu plus ou t'as pas cherché. Bon bah c'est bien.
Non, j'ai vu que les prix qui conseillaient c'était ça, j'ai vu que sur la plateforme la plupart des gens ils vendaient à ces prix moyens, donc je me suis dit bah je reste dans le délire quoi, je vais pas baisser les prix, ça niquerait le marché, je vais pas monter parce que je suis nouveau, donc voilà.
Excellente réflexion. Toi Tammy, comment t'as fait ton petit pricing?
Moi, je fais un peu comme tout le monde, j'ai regardé ce que faisaient les autres. J'ai pas voulu mettre trop bas parce que c'était hors de question de vendre un MP3 à 5€, chose comme ça, comme on peut voir certaines fois. Et puis, je fais ma petite moyenne et puis c'est resté comme ça et j'ai pas bougé.
Efficace, solide.
Voilà, donc c'est ça.
Efficace, solide.
Non, solide sur ses appuis.
Solide sur ses appuis. Moi, j'avais beaucoup parlé avant de faire les vidéos sur tout ce qui était licence, etc. Parce que forcément, t'es obligé de parler un petit peu du prix. Mais ce qui est difficile, c'est que tu peux pas vraiment parler du prix à mettre en place pour une licence pour monsieur tout le monde. Parce que typiquement, un Coty ne va pas avoir la même expérience qu'un Jean-Michel qui va commencer, qu'un débutant. Enfin, le prix va aussi en fonction de la carte de visite, entre guillemets.
Un mec qui a
des années d'expérience, qui commence à faire de la vente très régulière, même si on prend des grosses têtes, hein, des Chucky Beats, même le groupe, j'appelle ça un groupe, c'est pas un groupe, mais tout ce qui est Legion Gabes, donc Gabes et Anony, putain, je sais jamais comment on dit son, Anomony, Anomini, je sais plus comment on dit, Domino. Enfin bref,
Anodomini.
Voilà.
Domino's Pizza.
Anodomini, c'est ça, ces mecs-là qui. Alors je mets toujours, entre guillemets, soi-disant, vente pour chacun 1 million d'euros de prod par an. Moi, je vous dis très honnêtement, j'ai un doute. Mais après, voilà, je sais qu'ils ont les plaques qui sont censées justifier. Les plaques, ça se fait facilement.
1 million par an ?
Ouais. Moi, ça me paraît infaisable. Ça me paraît infaisable.
Beaucoup, quand même.
Ça monopoliserait quasiment tout le marché et pour la simple raison, je sais combien BeatStars a reversé aux beatmakers depuis qu'ils sont créés. Ça me paraît injouable. Enfin, voilà. Après, ça n'engage que moi et c'est pas du tout de la rage ou quoi, hein, parce que j'avais même été voir comment ils faisaient leur espèce de petite formation. Je m'étais mis sur un petit webinar qu'ils faisaient. Et bon, je trouve que c'est de la trappe couillon. Clairement, c'est pour que les mecs qui sont en espoir de vente achètent leur formation qui coûte 400 balles ou 500 balles.
De toute façon, à partir du moment où il y a un webinar, c'est de la trappe couillon, non ?
Un peu, ouais. Ouais. Bon. Un peu. Pas forcément tout le temps, mais dans une grande majorité des cas. Et bref, de toute façon, ce qu'il faut quand on met en place ces prix, c'est ce qu'il faut se dire, c'est déjà quel prix te convient à toi. Je prends souvent l'exemple de la boulangerie, mais tu dois vendre une baguette de pain, tu vas regarder combien vendent les boulangers autour. Tu vas pas dire, tiens, je vais vendre ma baguette de pain 5 euros alors que tu viens d'arriver, personne te connaît, on sait pas qui t'es, etc. Et de la même façon, tu vas pas la mettre à 30 centimes parce que, pour les raisons qu'on a tous évoquées, ça n'a pas de sens de se sous-évaluer. Maintenant, il y a un prix médian qui va osciller autour d'un euro. Si on prend l'exemple de la baguette de pain, ça peut être 20 balles pour un MP3 ou quoi que ce soit. Et en général, moi, ce que je recommande toujours quand on commence, c'est d'y aller avec l'humilité, de se mettre un tout petit seuil en dessous. C'est pas diminuer de diviser par deux, pas faire genre une prod à un MP3 qui est à 20 balles, pas forcément le mettre à 10 balles ou à 15 balles, mais par exemple, un petit 17-18, tu vois, pour montrer que tu te mets un petit peu en dessous, tu commences tranquille. Ça, je pense que c'est la bonne méthode. Et après, BeatStars recommande de toute façon les prix. Hein, les prix qu'ils recommandent, c'est un petit peu les prix médians. Donc, ce que tu as fait, Syndrop, c'est très bien. En customisant avec les 8, très bonne technique. Mais après, faut surtout essayer. Et puis, tu vois, de toute façon, tu as toujours à un moment donné quelqu'un qui est intéressé par la prod, il l'achètera. Typiquement, l'histoire des stems, moi j'en avais parlé parce que moi, c'était surtout le prix des stems qui quand j'ai commencé, je me disais, mais c'est en fait ta leçon, mais qui est en plusieurs parties. Mais quelque part, si tu prends le wave, tu as toute la partie. Tu vois, je comprenais qu'il y avait une plus-value d'avoir les stems, mais pour la chiffrer, je galérais un petit peu. Et j'en ai parlé avec Mike, avec les mecs de BeatStars, et puis ils m'ont répondu simplement, c'est un truc qu'il faut quand même bien pricer, pour la simple raison qu'un ingé son qui va vraiment travailler avec un artiste, il mettra le paquet pour avoir le piste par piste, pour en rendre un truc complètement identique à l'univers de l'artiste, et pas juste prendre un wave ou le plugger, quoi. Donc il ira au prix qu'il faut. Donc après, je pense que chacun surtout trouve ses prix médians qui lui conviennent. 20 balles une prod MP3, ça me semble bien. Pour moi, après, le wave, c'était vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, le survendre juste le wave, moi je trouve que c'est, après, ça engage que moi, attention, je trouve que le gap est léger. Typiquement, entre un MP3 20 balles et mettre à 40 balles un wave, ça fait cher le wave, parce qu'en vrai, de vrai.
La qualité, ça va.
La qualité, elle est au-dessus sur du wave.
Mais après, c'est pas pour ça, c'est plus pour les quantités de streams possibles et tout, que les prix changent.
Mais après, voilà, c'est ça le deuxième facteur. Mais en termes de qualité, sur du wave, sur MP3, parce que c'était l'argument de vente de certains. Faut arrêter de nous prendre un petit peu pour des teubés. Écoute un wave, écoute un MP3, dis-moi à ton oreille si tu sens quel est le wave, quel est le MP3. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont incapables de le faire.
Ah oui, mais moi, je saurais même pas le dire. Ouf.
Donc,
je me tue à écouter du son toute la journée, à chercher le petit truc, et en vrai, c'est...
Non, c'est infaisable. C'est infaisable. Mais après,
peut-être si tu vas chercher dans les aigus, il y a peut-être des artefacts, mais clairement...
Ouais, mais le monsieur tout le monde, il va jamais tilter.
Oui, bien sûr que non.
Il va jamais tilter. Puis en général, si tu prends juste une licence wave ou juste une licence MP3, c'est que t'es plus dans une phase où t'es en train de débuter. Et quand tu débutes, logiquement, c'est pas le moment de t'attarder sur ce genre de détails. Après, chacun voit son truc à sa sauce, mais logiquement, c'est pas le moment exact où tu te dis, putain, attends, les tels artefacts.
C'est pas honnête que ce soit un argument en marketing, quoi. C'est
exactement.
Pas de l'honnêteté.
Mais par contre, c'est ce que tu avais commencé à dire, l'argument qui fait que ça peut différer, c'est le nombre aussi d'évolutions que tu peux avoir au niveau des streams. Après, ça peut être un jeu. Bon, je sais qu'il y a certains beatmakers qui vont faire, ils vont faire que du wave, pas de MP3, mais ils vont faire plusieurs packaging en fonction des streams. Parce qu'il faut aussi le rappeler, ça c'est un truc que la plupart des gens ne savent pas forcément. Donc bah, comme ça, on leur dit, comme ça, ceux qui entendent le sauront. Mais par exemple, je vais prendre un exemple tout con. Sur DistroKid, quand un son sort, tu peux partager le split avec le beatmaker. Mais le rappeur, quand il va t'acheter, admettons, ta licence MP3 et que tu lui autorises, je sais pas, 200 000 streams, en fait, si tu n'atteins pas ces 200 000 streams, il a pas à te payer, en fait. Ces 200 000 streams qui sont pour lui, c'est-à-dire qu'il peut les exploiter et les en profiter pleinement. Il n'a pas à te reverser la partie thune. Parce que toi, c'est justement quelque chose, c'est pour ça que c'est de la non-exclus, c'est quelque chose que tu peux revendre. Et l'artiste aussi, c'est aussi pour être un petit peu entre les deux, qui ne paye pas tout le temps à chaque fois. Donc là, il paye la distrib, il paye la prod, mais il peut exploiter ça sans partager les droits du master, pour être précis.
Donc la SACEM, c'est que pour les placements ou les gens qui dépassent ça, du coup,
ça va être d'une part pour les gens qui dépassent ça, mais ça va surtout être pour que le son, si jamais, pour une raison X ou Y, qui se retrouve aussi en synchro, dans une pub, dans un spectacle, dans un je sais pas quoi, bah que là, la SACEM elle puisse récolter aussi les droits à ce niveau-là. Mais sur les droits du master pur et dur, c'est dans la licence, le mec peut l'utiliser sans entreverser quoi que ce soit. Après, évidemment, s'il le déclare à la SACEM, il déclare avec, toujours.
Ok. Et moi j'avais une... Ouais, vas-y, Kélie.
Pardon. À quel moment le beatmaker, il sait si l'artiste a utilisé une prod à lui, etc., que la licence achetée, elle est caduque. Si t'as dépassé le nombre de streams ou un truc comme ça. Tu peux pas vérifier, c'est impossible.
Ouais, je crois que t'as des trucs faits exprès, genre t'as du tracking, ben genre par exemple avec Beatstar, je crois qu'il y a un truc aussi.
Beat ID.
Ou ouais. Après c'est cher, je trouve, pour ce que ça propose, tu vois, mais il y a plein de petits sites, je crois que je te les retrouve, mais en vrai, tu rentres, je sais pas, tu payes, je crois, 9 euros par mois, et tu rentres juste le MP3 sur le site, et ils cherchent tous les sons qui...
Si tu peux
retrouver ça,
je suis grave,
Ouais, mais je vais vous l'envoyer. Et ça te permet de voir qui a utilisé tes sons, tu vois. Et après, il faut que tu protèges tes prods aussi. Alors moi, je sais que je le fais pas et je devrais le faire. Mais je sais plus comment ça s'appelle, mais genre, il y a un truc qui permet de protéger tes prods et que genre, par exemple, sur YouTube, tu peux envoyer des claims et tout, tu vois. Et ça te permet aussi de si un mec utilise ta prod, qui te tag pas ou qu'il a pas acheté de licence et qui fait genre des 200-300K vues sur YouTube, tu peux claim sa prod et récolter tous les bénéfices qu'il s'est fait, tu vois.
Ouais. Ah, c'est chaud.
Et en vrai, ça, c'est cool, tu vois.
Et ça, après, justement, bon, justement, c'est ce que tu disais, il y a BitID qui te permet de savoir, d'avoir la vue.
BitID,
ça c'est... Ouais, d'ailleurs, petit disclaimer, il y a une vidéo qui va sortir là-dessus. Voilà, je l'ai tournée en janvier, okay. Je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas sorti, pourtant elle est faite. Mais
ça c'est hyper important. Après ça coûte cher, je crois, c'est à l'année.
C'est BitID, en fait, tu payes 10$ par son par mois.
Ah ok, d'accord. Ok, mais c'est avec BitStar.
Ouais. En fait, pour moi, l'erreur de ce produit-là, ça peut être une parenthèse, on peut en parler vite fait, mais... L'erreur, c'est ce que je dirais dans la vidéo que je sortirai, l'erreur de BitID, c'est que c'est quelque chose qui est ingérable pour un beatmaker qui n'est pas professionnel beatmaker, c'est-à-dire qui n'en vit pas. Quelqu'un qui vit pas de sa musique,
ne peut pas se servir. 10 balles pour un son, c'est... Surtout si tu chopes le mauvais son ou le son qui... Personne n'a utilisé, ça fait chier quand même, tu vois. Moi, je pense que ça serait mieux de mettre un abonnement où tu peux voir tous les sons et tu peux voir le truc. Tu lui mets un peu plus cher, certes, mais au moins tu peux avoir accès à toutes tes prods, quoi, tu vois.
Complètement.
Je pense que ça serait mieux.
Complètement. Parce que là, t'imagines, nous, là, avec le collectif, on a sorti, on est quoi ? On a 72 prods.
Frère, on est en négatif, là.
Si je mets 10 euros dans chaque truc, 720 balles par mois, laisse tomber, ça fait cher pour savoir qui a utilisé. Après, j'en parle un petit peu, mais dans la vidéo que j'ai fait, moi justement, le résultat, alors c'est un truc, c'est une vanne extraordinaire. Ça arrive à me sortir des sons qui utilisent ma prod, où il n'y a pas du tout ma prod dans le son. Donc déjà, la véracité est chaude.
Génial. C'était sûr.
Ah, puis ce qui est magnifique, surtout, moi, ça, j'ai gaulerie de ouf, ça m'a sorti, je vous jure que ce n'est pas une vanne. Ça m'a sorti une vidéo YouTube, mais qui était genre, ça avait pas un titre de musique. Et c'est sur le coup, je lis pas trop le titre. Je fais, tiens, c'est quoi ? Je vous jure, sur ma vie, c'était une vidéo de moi. Une vidéo de Norma, sur ma chaîne Norma, mais qui n'utilise pas du tout le son. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et en vrai de vrai, pour moi, c'est un truc qui est trop difficile à packager.
C'est une intelligence artificielle, mais trop intelligente.
C'est ça. En fait, peut-être que pendant que je faisais la vidéo, je pensais à ce son, mais non, mais tu vois, c'est juste ingérable.
Mais après, ils viennent de le sortir il n'y a pas hyper longtemps, donc je pense que c'est encore en phase de développement, tu vois. Puis même, ils changeront sûrement les tarifs et tout.
Le concept en soi est ouf.
Moi j'en ai beaucoup parlé avec eux. Parce que moi quand c'est sorti, tout le monde est venu me voir. Ah, putain, t'as vu, attends, c'est trop cher, c'est n'importe quoi. Alors après, en fait, en vrai de vrai, c'est pas un outil qui est fait pour analyser tous ces sons en tâche de fond non-stop. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, on peut se dire sur le packaging, c'est 10€ par son par mois. En vrai de vrai, quand, je sais pas, au mois de mars, t'as un son qui est sorti depuis un an, tu t'es tapé toute l'analyse jusqu'à mars, t'as aucune raison de le refaire en avril, tu vois. Je veux dire, ce qui t'intéresse, c'est surtout la donnée qui s'est passée avant la date clé. T'as pas d'intérêt après à le refaire, repayer 10€ pour juste le mois d'avril, parce que t'as déjà toute la donnée antérieure.
Ah, mais c'est surtout ce qui fait vraiment chier, c'est que tu sais pas si le son a été utilisé, tu vois.
C'est ça, ouais. C'est ça,
genre,
c'est ça.
Il faut...
Tu peux payer 10€, même tu peux dire, tiens, ces 6 sons là, ils marchent plutôt bien sur Beastar, je vais aller vérifier. Et putain, tu te dis, bah non, en fait, il n'y en a aucun qui ont été utilisés. T'as payé 60 balles pour rien. Et ça, c'est un petit peu dur. Après, leur argument, c'est que ça utilise tellement de ressources en termes de charge serveur qu'ils sont obligés de mettre le prix qui va bien. Moi, j'ai trouvé que ça n'était pas été super précis pour le. Parce que moi, ça ne savait rien remonter. Même des mecs qui m'avaient acheté la prod, j'avais pris deux prods qui avaient été vendus pour le test. Et plusieurs fois en plus. Et ça n'a rien retrouvé. Donc j'ai du mal à imaginer que les mecs, en plus, il y a plus d'un an, aient chopé des prods qui. Voilà. Et 11 fois en l'occurrence, qui n'est jamais sorti. Donc la véracité du truc. Je suis un petit peu dans le doute, mais par contre, pour revenir sur Content ID, ça, c'est ce que va offrir BeatStars Distribution. Et ça, c'est un vrai plus, parce que du coup, c'est directement sur la plateforme BeatStars, ça coûte 1,79€ par mois, enfin, quoique maintenant, ils ont fait l'abonnement l'année. C'est 17,99€ sur l'année, et du coup, pour tous tes sons que tu sors, tu peux mettre Content ID, et du coup, pouvoir claim et avoir cette gestion, justement, de droits. Donc ça, c'est plutôt cool.
Moi, j'avais fait ça, et l'enfer, c'est que ça n'avait pas du tout lié avec mes sons que j'avais déjà sortis sur ma chaîne YouTube. Ça a juste créé une nouvelle chaîne avec mes prods ré-upload, quoi. Du coup, c'était un peu un enfer. Quand on recherchait sur YouTube, on tombait sur cette chaîne-là qui avait été créée par BeatStars et ma chaîne à côté.
Mais c'est parce que toi, t'as sorti sur YouTube... Enfin, t'as sorti aussi dans la distribution, t'as dû sélectionner YouTube.
Non, j'ai mis que Content ID, je leur ai envoyé des mails et tout. Ils ont dit oui, c'est normal, si on met sur Content ID, il faut que ce soit aussi sur YouTube Musique et tout. Donc du coup, voilà.
C'est scandaleux, ça. Putain, c'est scandaleux.
Et mais du coup, ils ont réussi à gérer et ils m'ont mis... Ils ont fait une demande à YouTube directement qui a relié la plupart des vidéos comme ça avec mes vidéos, du coup. Et maintenant, le problème est à peu près réglé, mais il en reste quelques-unes, quoi.
Non, puis même c'est chiant, enfin, quand tu sors énormément de prod, si à chaque fois tu dois faire une demande au support, vous pouvez me rattacher le truc, machin, enfin, c'est
bah, du coup, j'en ai pas remis et je suis plus abonné au truc de distribution, quoi.
Ça, c'est fait.
Ça, je trouve c'est mal foutu. C'est un vrai sujet. Et, tu vois, tout à l'heure, on parlait de. Repérer ceux qui utilisent tes prods, etc. Ça veut dire quoi? Tu vas aller voir les artistes après, tu leur dis, bah, montre-moi ta licence si c'est un MP3 ou un Wave, parce que si t'as dépassé le truc, il faut que tu payes. Enfin, c'est le meilleur moyen de te griller auprès des artistes. En faisant des trucs comme ça, ça fait vraiment rapiage, get toutes les vues, tu vois. Je trouve que c'est.
Après, ça dépend, tu vois. Moi, par exemple, j'ai un cas où il y a un Polonais qui a fait 1,5 million de vues sur YouTube. Il a pris la licence à 100 000 et du coup, bah, je sais pas trop où me positionner, quoi.
Bah, en vrai de vrai, le positionnement, t'as deux possibilités. Soit tu t'en tapes parce que quelque part, il t'apporte de la visibilité, etc. Mais d'un point de vue, justesse, c'est pas ce qu'il y a de plus juste. Soit, en fait, il faut juste y aller en mode... En fait, là, dans tous les conflits qu'il y a dans ce truc-là, ce qui marche mieux, c'est juste le tact et la discussion. Genre, tu envoies un petit message, tu dis, tiens, salut mec, j'ai vu que par contre, t'avais dépassé les trucs, c'est super bien, la musique à tabasse, il y a des gens qui commentent et tout, c'est ouf. Par contre, mec, la licence, elle était juste de ça. Est-ce que je te fais une petite remise pour que t'achètes la licence qui va bien et tu lui fais une méga grosse remise, mais juste histoire qu'ils se mettent à jour pour le geste, tu vois. Et en général, ça marche. Moi, ça m'a été arrivé une fois. Et ça n'avait pas posé de problème. Après, ça m'est arrivé qu'une seule fois où le mec avait dépassé le seuil.
Le problème, c'est quoi? C'est un gros label et tout, et que je leur ai déjà envoyé un mail où ils ont pas répondu. Enfin, bref, c'est un bordel.
Faut insister, insiste.
Non, moi ça m'est arrivé une fois. Bon, c'était pas une prod que je vendais moi, parce que je fais pas mal de prod aussi destinées à la danse hip-hop, au breaker, tout ça. Donc prod que certaines prod que j'ai sorties sur Spotify, etc. Et bah, y a un gars qui a pris ma prod dans une de ses vidéos. Et mais il m'avait pas du tout cité en fait dans le. Parce que moi je pars du principe, à partir du moment où tu me cites, tu cites le titre du son, mon nom, mais il n'y a pas de problème, tu vois, tu peux. Il n'y a pas de souci. Lui m'avait pas du tout cité, donc j'avais envoyé un message gentiment, quoi. En lui disant oui, bonjour, voilà, je suis je suis Alpatch et tout, c'est moi qui ai fait le son. Est-ce que tu peux ajouter, s'il te plaît, mon nom dans la description, quoi, tu vois, simplement, quoi. Et puis un lien vers mes réseaux, quoi, éventuellement et tout. Et c'était marrant, il m'a répondu « Non, tu n'es pas le propriétaire du son ». J'ai dit « Ah, pardon ? Ah, d'accord. » Réclamation. Je vais bloquer sa vidéo, du coup. Voilà.
Normal.
Mais c'est dommage d'en arriver là, parce qu'en vrai, un gap de licence, c'est pas quelque chose qui est très...
Complètement, mais enfin, il a tout de suite rompu le dialogue. « Non, non, t'es pas le proprio, laisse-moi tranquille. » Ah, bah, écoute, ok. Voilà.
Alors moi j'ai une autre anecdote à raconter qui montre aussi que c'est, je trouve, mal foutu, c'est pas abouti. C'est des potes à moi qui ont acheté une prod en Wave, un collectif de beatmakers sur YouTube. Ils postent le son, tout ça, donc ils sont clean, en règle, machin. La prod est vendue en exclusivité à un artiste assez gros, je peux pas citer le nom évidemment. Le morceau sort peut-être 2 mois après celui de mes potes. Et du coup, ils reçoivent une réclamation pour droit d'auteur. À ce moment-là, il y a un échange qui est fait entre la maison de disques et la chaîne YouTube de mes potes, où ils expliquent qu'ils ont une licence, qu'ils ont payé la prod, etc. Preuve à l'appui. Demande refusée. Donc, mes potes contactent les beatmakers. En disant, les gars, il y a un problème, on peut plus monétiser notre vidéo parce que vous avez vendu l'exclu à quelqu'un d'autre, etc. Aucune réponse. So comment ?
Ouais, c'est... Pour moi, il y a une vraie place aujourd'hui dans le marché pour qu'une société s'instaure et puisse gérer ce genre de choses. Maintenant, comment tu peux faire ça ? Ça me paraît infaisable. Parce que ça veut dire qu'il y a la personne qui va te prendre une licence... Comment tu veux traquer ce qu'elle en fait derrière ? C'est comme si t'achetais, j'ai une connerie, tu vas t'acheter un t-shirt. Comment le mec il peut savoir derrière combien de fois tu l'as porté ? C'est quasiment impossible. Donc à part avec Content ID, c'est très compliqué de pouvoir voir ça. Il y a Beat ID et ce genre de choses qui peuvent le faire, mais...
Ouais, j'ai trouvé le site.
Vas-y.
C'est beatlock.io.
Ah oui, exact, je connais. C'est en plus,
et
c'est
en
plus
gros,
précis.
Il y a des crédits, bon, je peux prendre des trucs à 100 crédits, genre un crédit c'est égal à une prod que tu peux rentrer. Et tu peux voir qui a utilisé ta prod, quoi. Et franchement, c'est cool. Après, il y a le Unlimited.
Attends, c'est BeatLock.
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 L-O-C-K.io.
Ok.
Après, il y a le Unlimited à $10 par mois.
Excellent.
Ouais, c'est cool.
Bah ouais, tester de ouf. Hein.
Après, t'as aussi la technique où quand tu vends tes trucs, tu les Shazam et puis tu vois aussi tu l'utilises, quoi. Mais faut pas que c'était trop modifié derrière.
Ouais, ça marche pas toujours.
Ça marche pas toujours, c'est ça qui est chiant.
Je suis tombé sur des trucs, des mecs qui ont fait 2 vues, tu sais, quoi qu'ils avaient pas payé, je vais pas aller les faire chier.
Ouais.
18 centimes, s'il te plaît.
Allez, hop, hop, hop.
Passe à la caisse, là. Ouais, non, mais c'est très, très chaud. Les amis, on va enchaîner parce que l'heure tourne. Tu la sens, la grosse chronique.
Très bien, là, c'est un peu bizarre.
Mais ouais, tout ça pour dire que c'est compliqué de trouver tous les outils, toutes les solutions. C'est même avec BeatLock, BeatID, en fait, dès que t'as un outil qui va arriver, ça va créer des nouvelles problématiques et c'est très compliqué de. Je sais, faudrait que j'en parle un peu plus avec. Après, en parler avec les gars de BeatStars, c'est compliqué parce qu'ils vont forcément vouloir nous diriger vers BeatID, ce qui est normal, c'est leur crèmerie. BeatLock, faudrait voir en poussant le délire pour voir ce que ça peut faire, mais.